Bonjour, mes frères, j'espère que vous passez un bon sabbat jusqu'à présent. Je voudrais commencer par une parabole. Certains l'appellent la parabole du pêcheur mexicain. D'autres l'appellent simplement la parabole du pêcheur. Je crois qu'on l'appelle aussi la parabole de l'homme d'affaires et du pêcheur. Quoi qu'il en soit, les paraboles ont une signification morale. Elle met en scène des personnages et nous enseigne des leçons de vie que nous pouvons appliquer. Voici en gros le contenu de cette parabole. Un riche homme d'affaires, lors d'un voyage, s'arrêta dans un petit village de pêcheurs. Il remarqua un pêcheur qui se reposait près de son bateau très tôt le matin et lui demanda: « Pourquoi ne pêchez-vous pas plus de poissons? » Le pêcheur répondit: J'en ai pêché assez pour aujourd'hui. L'homme lui expliqua: Mais si vous en pêchez plus, vous pouvez gagner plus d'argent et acheter un meilleur équipement, un meilleur bateau, de meilleures cannes à pêche. Puis, avec le temps, vous pourriez acheter plus de bateaux. Et avec le temps, si vous continuez ainsi, avec plus de bateaux, vous embaucherez plus de personnes. Vous pourriez alors ouvrir une usine de transformation. Finalement, vous deviendriez riche. Le pêcheur leva les yeux et demanda: Et après? L'homme d'affaires sourit fièrement. Ensuite, tu pourrais te détendre. Et le pêcheur répondit: Mais c'est ce que je fais déjà. Mes frères, c'est une parabole très courte. Mais elle a une signification profonde, même pour nous, le peuple de Dieu. Dieu veut que nous réussissions dans tous les domaines. C'est ce dont parle la Bible. C'est une histoire à succès racontée à l'avance pour ceux qui font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et Dieu ne veut pas seulement que vous et moi réussissions. Parfois, je dois m'arrêter et me rappeler, avec l'immense savoir que nous avons acquis au fil du temps, l'immense projet qu'il a pour mes parents, pour ma famille élargie, mes proches que je ne connais même pas, Dieu a ce projet de réussite incroyable pour eux. Et Dieu veut que nous réussissions dans tous les domaines de la vie. Et il veut également, dans ces différents domaines, que nous comprenions quel est son projet pour la réussite financière. Dieu veut que tout le monde réussisse financièrement. Mais qu'est-ce que la réussite financière? C'est peut-être une question très courte, mais elle est très importante. Il n'est pas aussi facile d'y répondre que vous pourriez le penser. Dans son introduction à la brochure Taking Charge of Your Finances, Prendre en main vos finances, Monsieur Pak dit: Dieu souhaite que tous les hommes jouissent de la prospérité, du bonheur et de la sécurité. Il poursuit en disant: Chaque famille devrait avoir l'esprit tranquille, sachant que ses besoins seront satisfaits et qu'un plan à long terme est en place pour y parvenir. Ayant travaillé dans le secteur des affaires toute ma vie, je trouve que cette définition financière, cette définition de la réussite financière, est parfaite. Profiter de la prospérité, du bonheur et de la sécurité avec l'esprit tranquille, sachant que mes besoins, ainsi que ceux de ma famille, sont satisfaits aujourd'hui et le seront demain. Je vous encourage à lire cette brochure, car elle résume parfaitement la situation. C'est la réussite financière en quelques mots. Le monde pourrait être d'accord avec ce que je viens de lire. Le monde serait d'accord pour dire que la réussite financière, c'est profiter de la prospérité, du bonheur et de la sécurité, avec la tranquillité d'esprit de savoir que mes besoins, ainsi que ceux de ma famille, sont satisfaits aujourd'hui et le seront demain. Il n'y aura pas de désaccord entre nous et le monde concernant ces déclarations de M. Pak. Mais le monde n'est pas d'accord sur la manière de la poursuivre ou de la réaliser. C'est là que le peuple de Dieu et le monde se séparent. Considérez ce qui suit. Deux personnes peuvent viser le même objectif et aboutir à des résultats complètement différents. Prenons l'exemple du mariage. La plupart des hommes et des femmes, lorsqu'ils se fiancent, sortent ensemble ou se courtisent, ont pour objectif d'avoir un mariage heureux et réussi. Cependant, si leur conception d'un mariage heureux et réussi et leur approche pour y parvenir diffèrent, cela aboutit souvent à un échec. Ils ont des perspectives différentes à ce sujet. Ils ont le même objectif. Je veux être heureuse en mariage avec cet homme pour le reste de ma vie. Je veux être heureuse en mariage avec cette femme pour le reste de ma vie. Mais c'est là que les choses se compliquent. C'est pourquoi, dans l'Église de Dieu, nous consacrons beaucoup de temps à conseiller les couples avant le mariage et à leur enseigner comment sortir ensemble, se courtiser et se marier, afin que lorsque deux personnes, un homme et une femme, s'unissent, elles aient la même façon de penser. Elles savent que la manière d'atteindre ce bonheur dans leur mariage est la voie de Dieu, pas nécessairement la sienne ou la sienne, mais celle de Dieu. Et c'est pourquoi les mariages dans l'Église sont si réussis. Mais là encore, c'est là que le monde diverge. La façon dont ils abordent le mariage est complètement différente. Il en va de même pour la réussite financière, mes frères et sœurs. Et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui. La réussite financière selon la voie de Dieu. Pas selon ma voie, pas selon la voie du monde, peut-être même pas selon votre voie, mais selon la voie de Dieu. Passons au chapitre 10 de Jean. Chapitre 10 de Jean. Voici un verset souvent utilisé dans le monde pour défendre la réussite financière telle que le monde la conçoit. Jean chapitre 10. Nous ne lirons ici que la seconde moitié du verset 10. C'est un verset ou une partie des Écritures que nous connaissons tous très bien. Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Or, en abondance ici, mes frères, est un mot grec, et c'est perissos. Perissos. Et cela signifie surabondant en quantité ou supérieur en qualité. Or, les faux ministères de la prospérité regardent ce verset et disent que l'abondance financière est un signe extérieur ou une preuve de la foi chrétienne. Les faux ministres soulignent cela et disent, ne me critiquez pas. Ne critiquez personne qui se dit chrétien et qui possède une richesse extrême, une richesse absurde, une richesse obscène, qui roule dans des voitures haut de gamme et porte des vêtements de marque. Leur ministère prône la croyance pour recevoir, ou nommer et revendiquer, ou semer et cultiver. Ils utilisent ce verset comme fondement de l'abondance financière. Mais mes frères, ils ne comprennent pas ce que Christ a enseigné. Ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Et nous devons tous admettre qu'en entrant dans l'Église, lorsque Dieu a commencé à ouvrir nos esprits, nous ne comprenions pas tout ce que Christ enseignait. Même aujourd'hui, il y a des domaines dans nos vies individuelles, j'ai peut-être un domaine que j'ai du mal à comprendre. Et vous avez peut-être un autre domaine que vous avez du mal à comprendre. Mais nous nous efforçons tous de comprendre la voix de Dieu. Certaines personnes lisent le verset 10 et affirment que Christ a promis des finances surabondantes et les meilleures choses que l'argent peut acheter. Encore une fois, comme signe extérieur que nous sommes des disciples du Christ, que nous sommes chrétiens. Mais est-ce vraiment le cas? La vie comprend-elle des finances surabondantes? Car c'est ce que signifie ce mot, plus abondamment, des finances et des possessions surabondantes. La vie se résume-t-elle à cela? La plupart des ministères qui prônent croyez et recevez répondraient oui, en fait, c'est tout ce qu'ils prêchent. Mais qu'en est-il de ce que Christ a dit dans Luc chapitre 12? Ouvrons notre Bible à ce passage. Luc chapitre 12. Une vie chrétienne abondante inclut-elle l'argent et les possessions? Car on ne peut nier que Christ est venu nous donner la vie et une vie plus abondante, surabondante en quantité et supérieure en qualité. La question que nous posons est la suivante. Cela inclut-il les finances? Cela inclut-il les possessions matérielles? Luc chapitre 12, verset 13. Et l'un des disciples dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Et Jésus répondit, Homme, qui m'a établi pour être ton juge ou ton partageur? Je m'arrête là un instant. Maintenant, une façon de bien comprendre le sens d'un mot est de comprendre ce qu'il ne signifie pas. Et c'est ce que nous allons apprendre. Nous allons apprendre ce que signifie une vie abondante, plus dans l'abondance, ce que cela ne signifie pas. Verset 15. Et il leur dit, Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme. Ce mot vie est exactement le même que celui utilisé dans Jean 10, dans la seconde moitié de Jean 10. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. L'abondance ici est pleuriséo, pleuriséo, qui est dérivé du mot que nous avons lu dans Jean 10, pleurisos. Cela signifie être en excès en quantité ou en qualité, être en surplus. Christ qualifie Jean 10. Frères et sœurs, la vie d'un homme, la vie d'un vrai chrétien, ne consiste pas en un excès d'argent, ni en les meilleures choses que l'argent peut acheter dans ce monde, point final. Mais j'ai dit plutôt que Dieu soutient la réussite financière. Et je vous dirai, comme nous l'avons lu ici, qu'il ne soutient pas l'abondance financière. La réussite financière et l'abondance financière ne sont pas équivalentes. Et nous verrons cela parce que la réussite financière est la voie de Dieu. L'abondance financière est la voie du monde. Elles sont différentes. Mais encore une fois, Dieu veut que nous réussissions financièrement. Je peux également le prouver. Allons à la troisième épître de Jean, troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, verset 2, un verset que nous connaissons également très bien. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout. Il s'agit donc de l'apôtre Jean, le dernier des apôtres originels. Je souhaite. Je vais écouter très attentivement ce que cet apôtre s'apprête à dire. Avant tout. Quoi? Avant tout. Avant tout ce que nous savons de la manière de vivre de Dieu? Oui. Avant tout, que vous prospériez et soyez en bonne santé, tout comme votre âme prospère. C'est là que les ministères mondains diraient que vous avez un problème. Parce que Dieu a inspiré l'apôtre Jean à souhaiter par-dessus toute la prospérité financière, la prospérité matérielle. Je ne contesterai pas ce point, à savoir que Dieu veut que nous soyons prospères financièrement et en termes de possession matérielle, les choses que nous avons. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que cela signifie la surabondance. En fait, ce mot, dans ce verset, les deux mots, je désire que vous prospériez et que votre âme prospère. C'est le même mot grec, eodo, eodo. Et cela signifie simplement réussir à atteindre un objectif. Donc, mes frères, la réussite financière, l'acquisition ou la possession de biens matériels, dépend de votre objectif. Soyons clairs. Dieu veut que nous ayons une vie abondante. Il veut que nous prospérions financièrement, ou que nous atteignions l'objectif de la réussite financière. Ce n'est pas la même chose. Certains aimeraient que la vie abondante dont parle Christ dans Jean 10, la surabondance, inclut les possessions financières et matérielles, ce serait bien, n'est-ce pas? Pour certains, peut-être vous, même les jeunes pensent cela. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bon. Et nous allons le voir. Avant de revenir à Luc 12, pour cette mise en garde importante que j'ai mentionnée, examinons l'échec financier du point de vue de Dieu. Proverbe 13. Qu'est-ce que l'échec financier? Avant d'examiner ce qu'est la réussite financière, Proverbe 13. Passons au roi Salomon. Personne ne contestera qu'il soit l'un des hommes les plus riches qui ait jamais foulé cette planète. Bien sûr, il a quelque chose à dire à ce sujet. Proverbe 13, verset 7. Il y a celui qui s'enrichit et qui n'a rien. Il y a celui, poursuit-il, qui s'appauvrit et qui possède de grandes richesses. Salomon était riche au-delà de notre imagination, mes frères. Selon une estimation, en dollars américains actuels, il aurait amassé l'équivalent d'environ 1,7 milliard en or chaque année. Pas au cours de sa vie, mais chaque année, 1,7 milliard. Certains commentateurs estiment sa fortune nette entre 170 milliards au bas mot et plusieurs milliers de milliards de dollars au plus haut. Il savait donc ce que représentait la surabondance d'argent, ou la surabondance, ou la qualité supérieure des biens qu'il possédait. Et le roi Salomon avait probablement tout cela à l'esprit, toute sa richesse à l'esprit, lorsqu'il a écrit cela. La signification derrière cette phrase, qui s'enrichit, est intéressante. Si vous vous référez à l'hébreu, cette phrase signifie être riche et prétendre être riche. C'est très important pour nous, mes frères. Encore une fois, nous parlons d'objectifs. Les mots encore et rien sont aïn, qui signifie être rien ou n'avoir rien, ne pas exister, être une non-entité. Écho, le mot qui figure ici, signifie tout ou entier, tout. Ainsi, quiconque, et c'est Salomon qui parle, est ou prétend être riche, a un compte bancaire bien garni, dispose d'une retraite très confortable ou possède les plus beaux biens matériels, Salomon a dit, pas moi, il a été inspiré pour dire, n'est ou n'a rien du tout. Le problème, c'est qu'il s'en est rendu compte trop tard dans sa vie. Il a couru après l'argent, il a accumulé des richesses, et il savait que cela ne valait rien aux yeux de Dieu. Et c'est la leçon importante qu'il a apprise, que la richesse n'a aucun sens pour Dieu, mes frères. Elle n'a aucune signification. Dans la plupart des pays israélites, les gens recherchent la richesse. Ici, aux États-Unis, on nous apprend dès le plus jeune âge à être financièrement indépendant. Les conseillers financiers sortant de l'université vous mettent sur la voie pour que, lorsque vous atteigniez 60 ans, vous puissiez prendre une retraite anticipée et ne plus avoir à vous soucier de travailler. Ce n'est certainement pas le cas dans de nombreux pays du tiers-monde où vivent nos frères. Passons au chapitre 11. Voyons ce que Salomon dit d'autre au sujet des richesses. Qu'y a-t-il de pire, mes frères, que de découvrir que notre richesse n'a aucune valeur aux yeux de Dieu si nous sommes riches? C'est une supposition, Proverbe chapitre 11. Qu'y a-t-il de pire que de découvrir que notre richesse n'a aucune valeur aux yeux de Dieu? Proverbe chapitre 11, verset 4. Les richesses ne profitent pas au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. En d'autres termes, vous pouvez accumuler toutes les richesses que vous voulez dans le monde, vous ne pouvez pas acheter le salut. Lorsque la colère de Dieu s'abattra sur la terre, même les hommes les plus riches ne pourront pas acheter leur sortie du problème auquel ils seront confrontés. Donc, la seule chose pire que de découvrir qu'un domaine de notre vie ne vaut rien, mes frères, c'est de mourir et de devenir un néant total pour toujours. C'est finalement le choix que Dieu nous propose, choisir la vie ou la mort. Et il est extraordinaire de voir à quel point la réussite financière ou l'abondance financière jouent un rôle dans les deux. J'ai trouvé surprenant que la richesse, et pas seulement le péché, soit lié à la colère de Dieu et à la mort lorsque j'ai lu cela. Bien sûr, Nous pouvons parler du péché et du fait que le salaire du péché est la mort. Mais réfléchissez à ce qu'il dit ici. Ces deux choses pourraient-elles être liées d'une manière ou d'une autre? La richesse et le péché pourraient-ils être liés d'une manière ou d'une autre? Bien sûr que oui. Passons au chapitre 6 de la première épître à Timothée. Le péché et l'argent. Intéressant. Chapitre 6 de la première épître à Timothée. Encore une fois, mes frères, nous parlons simplement en ce moment de l'échec financier avant d'aborder le reste du message sur la réussite financière selon Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 6. Maintenant, ce que j'ai dit, ce que l'apôtre Paul a dit au jeune Timothée, prend encore plus de sens. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Rappelez-vous, je pense que nous l'avons entendu plus tôt dans le sermon, vous devez tenir compte de l'auditoire. Et nous savons que la Bible a été écrite à l'intention de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu. Mais ceux qui veulent s'enrichir, il doit être. Il ne parle pas seulement du monde, n'est-ce pas? Il s'adresse aux membres de l'Église. Ceux qui veulent s'enrichir. Il n'y a pas de restriction ici. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, et je vais le lire tel qu'il est présenté en grec dans Biblub. La racine de tous les maux est l'amour de l'argent, que certains, en le recherchant, se sont détournés de la foi et se sont infligés de nombreuses souffrances. Ces versets sont chargés d'une connotation négative. Pensez aux plantes. Plus une plante a de racines, plus elle est saine. À l'inverse, plus nous avons d'argent, plus le péché a tendance à se développer. Plus d'argent, plus de péché, plus de racines, plus de feuilles sur la plante. Toutes sortes de péchés sont nourris par l'amour de l'argent, qui est une racine. Et les racines sont des conduits. Elles ne sont pas la nourriture elle-même. Récemment, j'ai parlé de couper les sources d'alimentation du péché. Et j'ai mentionné la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Tous ces péchés s'écoulent plus facilement à travers ces racines, l'amour de l'argent. Si vous luttez contre la convoitise des yeux, la convoitise de la chair ou l'orgueil de la vie, laissez-moi vous dire ce qui servira de canal pour nourrir le péché, les racines. Et la racine, c'est l'argent. Quiconque possède un excès d'argent ou de biens matériels et dit qu'il n'aime pas l'argent se trompe tout simplement lui-même. Quiconque accumule cela, nous l'avons entendu récemment, Rockefeller, quand on lui a demandé combien était suffisant, il a répondu, juste un peu plus. Regardez tout ce dans quoi peuvent tomber les gens qui ont plus qu'il n'en faut. Lorsque vous avez plus qu'il n'en faut, la tentation, le piège, bien sûr, c'est le diable, le piège du diable, la convoitise insensée, la convoitise nuisible, la noyade, la destruction, la perdition, la séduction, les chagrins sont tous là. Cela, mes frères, n'est en aucun cas la définition de la réussite financière. Et tout cela est lié à l'amour de l'argent. Ne vous dites pas, cela ne s'applique pas à moi. Je n'ai pas beaucoup d'argent, monsieur Hook. Je ne veux pas être riche et je ne le désire pas. Cette expression, qui sera riche, est intéressante. C'est pourquoi le grec est si important. Ce que nous avons appris au fil des ans sur les traductions erronées, c'est que cela signifie simplement être disposé, enclin ou prédisposé. Cela ne signifie pas strictement ce qu'ils veulent ou désirent. Et le verset 10 explique le verset 9, la volonté d'être riche. Sinon, si je tombe sur beaucoup d'argent, cela me convient. Je parie que si je faisais un sondage dans cette salle, Si vous tombiez sur 1 million de dollars, cela vous conviendrait-il? Cela me conviendrait. Qui dirait cela? C'est ce que dit ce verset. Quiconque est disposé ou prédisposé à être riche peut tomber dans tous ces pièges. Donc, la volonté d'être riche équivaut à l'amour de l'argent. Et si nous sommes prêts à accumuler de l'argent ou des biens, cela nous rend vulnérables, mes frères. Et croyez-moi, j'ai vécu dans un pays du tiers-monde. Les pauvres peuvent être aussi vulnérables à cela que les peuples des nations israélites, des nations développées, parce qu'ils désirent être riches. Ils seraient d'accord pour être riches. Et quand vous êtes d'accord, vous vous ouvrez à cela. Si vous devenez riche, vous tombez certainement dans ces pièges. Nous pouvons maintenant répondre à ces versets sur l'échec financier, ainsi qu'à beaucoup d'autres que nous aurions pu citer pour les étayer, de deux manières différentes. En général, les gens réagissent à ce type de verset, à ce type d'enseignement, de deux manières. Ils réagissent avec tristesse, comme le chameau qui a essayé de passer par le chat de l'aiguille, je veux dire, le jeune homme riche qui a essayé d'entrer dans le royaume, où ils peuvent se réjouir comme Pierre et les autres apôtres, lorsqu'ils ont dit, qu'est-ce qui nous attend? Nous avons tout quitté pour te suivre. Vous pouvez soit réagir à cela avec tristesse, soit réagir avec joie. Les jeunes, entre les deux. Les personnes âgées dans l'église et les jeunes, c'est l'une des deux façons dont vous allez réagir. Rappelez-vous, Dieu veut que nous connaissions le bonheur, la sécurité et la paix de l'esprit, en sachant que nos besoins seront comblés. Et le plus grand besoin que nous devrions avoir est de vouloir entrer dans la famille de Dieu pour l'éternité, dans le royaume. Luc chapitre 12. Je vous ai dit qu'il y avait une mise en garde. Luc 12. Luc 12. Parce que je frappe fort. Le fait que la vie plus abondante n'inclut pas, ou plutôt qu'elle n'inclut pas l'abondance ou la surabondance ou la qualité supérieure des choses et de l'argent que nous pouvons obtenir. Mais je tiens à faire cette mise en garde. Luc chapitre 12. Encore une fois, verset 15. Car la vie d'un homme, nous lisons ceci, ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Voici la mise en garde, mes frères. Remarquez ce que Christ n'a pas dit. Il n'a pas dit que la vie ne consiste pas en des choses. Il a soigneusement inséré le mot abondance. Remarquez la différence. Cela signifie que l'argent et les biens ont une place ou ont des places dans nos vies. Il n'y a rien de mal à posséder des biens et de l'argent. Sinon, nous tomberions dans l'autre extrême et penserions que les chrétiens doivent vivre dans la misère et ne rien posséder. Un chrétien ne devrait pas non plus tomber dans cette façon de penser. Ce n'est pas biblique. Dieu veut que nous réussissions financièrement. Il veut que nous possédions des biens. Ce qu'il ne veut pas, c'est que nous ayons une surabondance de ces biens ou d'argent. Car si vous pensez ainsi, si vous pensez que vous ne pouvez pas posséder de biens ou d'argent pour prouver que vous êtes chrétien, franchement, je dirais que c'est de l'hypocrisie. Penser autrement ou penser ainsi est tout aussi erroné que de penser que la surabondance ou une vie plus abondante inclut l'argent et les possessions matérielles. La vérité se trouve juste au milieu. Mes frères, continuons. Verset 16. Et Christ dit une parabole, disant, la terre d'un homme riche produisait abondamment. Et il se disait en lui-même, que ferai-je? Car je n'ai plus de place où déposer mes fruits. Et il dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands, et j'y entreposerai tous mes fruits et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Cela ressemble au conseil que le riche homme d'affaires essayait de donner au pécheur. Repose-toi, mange, Bois et sois joyeux. Mes frères, appelons un chat un chat. Le but du riche était de se constituer un trésor. C'est ainsi que le monde mesure ou considère la réussite financière. Une surabondance de biens, d'argent. Sa raison pour accumuler des richesses était d'assurer sa tranquillité d'esprit. C'est ainsi que fonctionne le monde. Repose-toi. C'est ce qu'il a dit. Maintenant que je suis riche, maintenant que j'ai plus que je ne pourrai jamais utiliser, je peux me détendre. Je n'ai besoin de compter sur personne pour manger, boire et être joyeux. Je disais n'importe qui. Cela inclurait Dieu. Cet homme essayait de vivre dans le luxe, dans le confort et l'aisance. Il essayait d'acheter son bonheur. Verset 20, mais Dieu dit, tu es insensé. Attendez une seconde. C'est un langage assez fort. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, qui sera propriétaire de ce que tu as amassé? Verset 21. Alors Christ dit, il en est de même. Trois des mots les plus durs à accepter. Il en est de même de celui qui est insensé. En référence à l'insensé. Qui amasse des trésors pour lui-même. Et voilà, mes frères. Et qui n'est pas riche envers Dieu. Moi. C'était une belle parabole jusqu'à ce que Christ la rende personnelle. Il était acceptable de parler de cet homme riche parce que je peux compartimenter et mettre cela partout, mettre cela sur quelqu'un d'autre. Mais il en sera de même signifie que n'importe lequel d'entre nous pourrait tomber dans cette catégorie. Et le mot que Dieu a utilisé ici était insensé. C'est à cela qu'il faisait référence. Il en est de même pour lui. Cela fait référence, encore une fois, au mot insensé utilisé par Dieu. Ce mot est affront. Il n'est pas identique à raca, qui signifie sans valeur ou insensé, ni à moros utilisé dans Matthieu 5 verset 22. Ce mot peut donc être utilisé. On nous dit de ne pas utiliser l'un ou l'autre de ces mots dans Matthieu 5, mais nous pouvons utiliser ce mot. Et je dirais, utilisez-le pour vous-même si vous tombez dans cette catégorie. C'est tout ce que cela signifie, mes frères. Ce mot n'a rien d'extraordinaire. Il signifie simplement irréfléchi, stupide, par implication ignorant, plus précisément égoïste, concrètement imprudent ou moralement incrédule. C'est tout. Il est traduit par insensé, stupide ou imprudent. Peut-être les traducteurs ont-ils choisi un langage plus modéré parce qu'ils étaient comme les hommes riches. On se demande si ces traducteurs de l'époque ont utilisé un mot un peu plus doux parce qu'ils étaient convaincus. Ils avaient peut-être beaucoup d'argent en réserve, mais ne vous y trompez pas, Dieu et Christ condamnent tout homme, et pas seulement les chrétiens, qui s'efforcent de devenir riches par ses propres moyens. Dieu a qualifié cet homme d'insensé, de stupide, d'ignorant, de moralement infidèle, d'égoïste et, d'un point de vue pratique, d'imprudent dans la façon dont il mène sa vie. Cela ne ressemble pas à une étude de cas sur la réussite personnelle ou financière. Et tout le contexte tourne autour des possessions financières et matérielles. D'autre part, Dieu, Christ, l'apôtre Jean, Monsieur Pâques, tous nous encouragent et nous enseignent comment atteindre le succès et la prospérité à la manière de Dieu. Il y a une distinction, car pour les chrétiens, réussir financièrement et devenir riche de manière indépendante ne sont pas la même chose. Je travaille dans le service comptable d'une entreprise. Je suis ici depuis de nombreuses années et j'ai donné des conseils financiers à plusieurs personnes au fil des ans. La première étape pour atteindre le succès est de se fixer le bon objectif. Cela vous semble familier? C'est la première des sept lois. Vous l'avez deviné, les lois du succès. mais soyez attentif. Le mot-clé dans cette affirmation, cette première loi, est le bon objectif, pas un objectif, le bon objectif. Donc, si vous venez me consulter, ou votre pasteur, au sujet de vos finances personnelles, sachez que je cherche à déterminer quel est votre objectif ultime. Et l'objectif que je cherche à entendre, l'objectif que Dieu veut que vous vous fixiez dans votre vie, qui est le bon, c'est d'être riche envers Dieu. C'est la base de la réussite financière. Sinon, Christ ne l'aurait pas utilisé ici. Il y a deux objectifs pour atteindre la réussite financière selon Dieu. Et ce sera l'équilibre du message. Le premier est d'être riche envers Dieu. Comment? De quelle manière? Comment pouvons-nous y parvenir? Jérémie chapitre 9. Je vais juste en parcourir quelques-uns. Mes frères, nous devons être riches envers Dieu si nous voulons réussir financièrement selon la voie de Dieu. C'est le premier objectif. Les buts ont des objectifs. Et nous allons passer en revue deux d'entre eux qui vous permettront d'atteindre la prospérité financière que Dieu souhaite pour vous dans votre vie. Cela vous permettra d'atteindre la prospérité financière, qui, rappelez-vous, n'est rien d'autre que d'atteindre un but avec succès. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Voici une façon dont nous pouvons nous efforcer d'être riches envers Dieu. Verset 23, Jérémie 9, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le puissant ne se glorifie pas de sa puissance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci. C'est là que vous commencez à souligner qu'il me comprend et me connaît, que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le jugement et la justice sur la terre. Car en cela je prends plaisir, dit l'Éternel. Mes frères, être riche envers Dieu commence par le comprendre et le connaître. C'est en cela que nous pouvons nous glorifier. Nous avons plus de connaissances sur le Père qu'à aucun autre moment de l'histoire moderne de l'Église. Nous sommes extraordinairement riches à cet égard. Réfléchissez-y, que vaut pour nous la loi de la bonté ou la loi de la bienveillance? Qu'avons-nous appris récemment? La loi de la bienveillance, que vaut-elle pour nous? Et que dire de savoir et de comprendre que Dieu exerce la bonté? C'est une richesse. Nous vivons à l'époque de Laodicée. Christ nous dit que les Laodicéens prétendent être riches, avoir beaucoup de biens et ne manquer de rien. Et je n'ai aucune raison de douter que leur affirmation soit vraie. Il n'y a aucune raison pour que ce soit vrai. Je crois qu'ils étaient riches financièrement, qu'ils avaient beaucoup d'argent, qu'ils possédaient beaucoup de biens, qu'ils avaient beaucoup de richesses, c'est ce qui est dit. Mais il dit aussi qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Ils ne sont donc pas prospères financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas riches envers Dieu. Une façon d'être riche envers Dieu est de connaître et de comprendre qui est le Père. Et très honnêtement, mes frères, les groupes dissidents ne savent pas qui est le Père. Et nous sommes extrêmement riches à cet égard. Proverbe 22. Non seulement connaître et comprendre qui est le Père nous rend riches, non seulement cela nous rend riches à cet égard, mais Proverbe 22 verset 1 dit ce qui suit, « Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Et l'amour de la faveur, la bonté plutôt que l'argent et l'or. » Mes frères, nous portons le nom de Dieu. C'est un privilège extraordinaire que nous avons. En grandissant, je portais le nom de Hook. Et mes parents attendaient de nous un certain niveau de conduite, que ce soit dans le sport ou à l'école, à l'université ou dans la vie de famille. Ma mère et mon père tiennent beaucoup au nom de famille Hook. Nous portons le nom de Dieu. Mes frères, nous vivons sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous devons l'imiter de toutes les manières possibles. Lorsque Christ a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père », réfléchissez à la manière dont cela peut s'appliquer à nous. Si vous m'avez vu, vous avez vu Christ. Si vous avez vu Christ, vous avez vu le Père. Si A est égal à B est égal à C, alors C est égal à A, ou B est égal à A et c'est Christ parlait de son caractère. Il ne parlait pas de son apparence physique. Et comment devenons-nous riches au nom du Christ, dans le caractère de Dieu? Mes frères, lorsque nous étudions avec cette intention, lorsque nous prions avec cette intention, nous méditons rapidement et exerçons l'Esprit de Dieu. Nous nous enrichissons envers Dieu parce que nous développons son caractère. Il est dit ici, ne perdons pas de vue ce point crucial avant de poursuivre. Il est dit que nous avons le choix. Le caractère de Dieu ou de grande richesse. Nous devons choisir. Pourquoi ? Parce qu'un obstacle majeur qui nous empêche d'abonder dans le caractère de Dieu est l'argent. Dinero. L'argent en français. Okan, je crois que c'est en japonais. Denji, je crois que c'est en russe. Mal. Je vois déjà les emails qui vont m'arriver, Monsieur Hook, ce n'est pas comme cela qu'on le prononce, et ce n'est pas le mot exact. Mais il est normal que Dieu donne le choix à son peuple. Cela nous met à l'épreuve. Cela teste ce que nous avons appris, ce que nous sommes prêts à appliquer. Cela révèle qui nous sommes vraiment. Alors, mes frères, nous devons être riches dans la connaissance de qui est Dieu, puis nous devons être riches dans son caractère. Passons à une autre chose dans laquelle nous devons être riches. Revenons au chapitre 6 de la première épître à Timothée. Je ne peux pas couvrir tous les domaines dans lesquels nous devons être riches envers Dieu, mes frères, mais en voici un qui est important. Rappelez-vous, dans le chapitre 6 de la première épître à Timothée, cette partie de l'Écriture parle de mener le bon combat de la foi. Mais au verset 17, il est dit « Recommande aux riches de ce monde ». Et encore une fois, il ne dit pas « Timothée, va dans le monde et recommande ce qui suit à tous ceux que tu vois riches dans la rue ». Il dit « Recommande ce qui suit à tous ceux qui sont sous ta responsabilité au sein du troupeau de Dieu. » Même s'il s'adressait au monde, ne s'adresserait-il pas aussi à nous? Recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux. Cela signifie arrogant. Ne se fie pas à des richesses incertaines, mais au Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir, afin qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres. Mes frères, une autre façon d'être riches envers Dieu est d'être riches en bonnes œuvres. Nous pouvons écouter, prendre des notes, étudier tous les messages. Mais attention, tous ceux qui se disent chrétiens véritables et fidèles, Dieu sait si nous réussissons financièrement autant par notre foi et nos bonnes œuvres que par le montant de notre compte en banque. Paul a expliqué aux Éphésiens que nous avons été créés par Dieu en Jésus-Christ dans quel but? Pour accomplir de bonnes œuvres. Je me réfère souvent à ce verset, que Dieu a préparé pour nous. Il nous a donné une multitude de bonnes œuvres que nous pouvons accomplir dans notre vie. Cela signifie que nous pouvons accumuler chaque jour des richesses auprès de Dieu par nos actions, avec ou sans argent. Je n'ai pas besoin d'argent pour accomplir de bonnes œuvres, mes frères. Réfléchissez-y. En fait, nous devrions accomplir la plupart de nos bonnes œuvres sans utiliser d'argent. Christ est venu pour que nos vies soient remplies de la connaissance de Dieu. Mes frères, je pourrais continuer à parler des bonnes œuvres, du caractère, de la foi, de tous les versets qui disent que nous devons être riches en foi. Dieu a choisi les pauvres de ce monde riche en foi. Christ dit, les richesses du Christ en nous, qui sont l'espérance de la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. Les richesses du Christ en nous, l'espérance de la gloire. Être riche envers Dieu signifie que nous devons être riches du caractère du Christ. Je l'ai dit. Je l'ai dit plus tôt. Son sacrifice, son humilité, sa façon de penser, plus nous imitons Christ, plus nous devenons riches envers Dieu. Savez-vous ce que Paul a dit aux Hébreux? Paul a dit aux Hébreux que Moïse a estimé l'opprobre du Christ plus que toutes les richesses de l'Égypte. Et l'opprobre signifie la honte, le rejet et la souffrance de la part de la famille, des amis et des collègues parce que nous rejetons le monde et que nous obéissons à Dieu. Vous voulez être riches envers Dieu? Estimez l'opprobre, la honte de suivre Christ, de l'imiter et d'être rejeté par votre famille, vos amis ou vos collègues de travail, si vous voulez être riches envers Dieu. C'est à cela que Christ faisait référence lorsqu'il a dit qu'il était venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Tel est notre premier objectif, mes frères, réussir financièrement à la manière de Dieu. Nous devons être riches envers lui. Passons maintenant au deuxième objectif. J'aurais pu consacrer des sermons et des messages à la manière d'être riche envers Dieu. Passons au chapitre 30 du livre des Proverbes. Comme je l'ai dit plus tôt, le roi Salomon était riche et recherchait les plaisirs de la vie. La Bible nous dit qu'il avait 700 femmes et princesses. Si cela ne vous fait pas frémir, il avait également 300 concubines. Mais la Bible dit aussi que son cœur n'était pas parfait devant Dieu. D'un autre côté, il voyait aussi des gens, israélites et païens, qui luttaient contre la pauvreté. Et c'est le contexte du chapitre 30, verset 7, du livre des Proverbes. Deux choses, je t'ai demandé. C'est le roi Salomon qui prie. Imaginez plus tard dans sa vie. Nous disons qu'il est trop tard, comme le dit le proverbe. Deux choses, je t'ai demandé. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloignez de moi la vanité et le mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne commette pas de vol et ne blasphème le nom de mon Dieu. Maintenant, mes frères, c'est une prière audacieuse. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ait souvent dit à Dieu, « Je te demande cela, Père, ne me le refuse pas avant que je meure. » C'est une prière assez audacieuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle révèle le désespoir du roi Salomon et la prise de conscience qu'il luttait personnellement à cause de sa richesse surabondante et de ses possessions supérieures, et qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. C'est ce qui est le plus révélateur. À ce moment-là, sa prière concernait sa survie spirituelle. Il allait trop loin et était allé trop loin. La vanité, les mensonges, l'autonomie, l'oubli de Dieu était enraciné dans l'argent. Il en avait trop, mais il était assez sage pour comprendre qu'aucune somme d'argent ne le rendrait désespéré, prêt à compromettre la voie de Dieu et à déshonorer Dieu. Nous ne sommes pas exempts de cela, mes frères. Les deux extrêmes auront le même effet sur nous. Si cela a eu un effet sur l'homme le plus sage, cela peut certainement avoir le même effet sur nous, car ce n'est pas une question qui concerne uniquement l'Ancien Testament. Ce n'est pas simplement une prière consignée. Personne n'est à l'abri de la vanité, de l'autosuffisance, du compromis avec la voix de Dieu, de l'oubli de Dieu, du déshonneur envers lui, en particulier nous, l'Église de Dieu. L'objectif de Dieu est de protéger chaque membre de chaque congrégation, de chaque pastorat dans le monde, et il nous donne un plan financier personnalisé pour y parvenir. J'appelle cela le deuxième objectif, mes frères, le premier étant d'être riche envers Dieu, le deuxième, d'avoir suffisamment pour servir Dieu. Suffisamment pour servir Dieu. Cela s'applique à tous les chrétiens, et je voudrais en examiner trois. Passons au chapitre 8 de la deuxième épître aux Corinthiens. Continuons. Regardez trois types de chrétiens. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. De plus, frères. Il s'adresse aux Corinthiens, souvenez-vous de l'auditoire. Il est donc tout à fait approprié que nous ayons entendu cela dans le message précédent. Nous vous faisons savoir. C'est une façon élégante de dire « nous voulons que vous sachiez ». La grâce de Dieu. La grâce, intéressant. Accordée aux églises de Macédoine. Comment alors une grande épreuve d'affliction, l'abondance de leur joie. Vous pouvez ajouter cela à la liste d'une vie plus abondante et d'une richesse envers Dieu, la joie. Et leur profonde pauvreté. Pensez à la veuve avec ses deux piécettes. Abondez dans la richesse de sa libéralité. Vous pouvez ajouter la générosité à la liste des choses qui font la richesse envers Dieu. Mais ce n'est pas fini. Verset 3, car dans la mesure de leurs moyens. C'est ce que cela signifie, car dans la mesure de leurs moyens, j'en rends témoignage, oui, et au-delà de leurs moyens. Au-delà de ce qu'ils pouvaient. Ils étaient disposés d'eux-mêmes, nous suppliant avec beaucoup d'insistance. En d'autres termes, ils nous suppliaient d'accepter leurs dons et de nous associer à leur partenariat. Ils étaient en partenariat avec l'apôtre, dans la communion du ministère aux saints. Voici les trois types de personnes dans l'Église de Dieu. Il y a les saints qui ont plus que suffisant, il y a les saints qui ont suffisant, et quelques autres saints qui ont moins que suffisant. Pensez-y simplement de cette façon, plus que suffisant, suffisant et moins que suffisant. Et peu importe où vous vous trouvez dans le monde aujourd'hui, frères et sœurs, peu importe le continent sur lequel vous vous trouvez, le pays dans lequel vous vivez, le petit village ou la grande ville où vous résidez, vous appartenez à l'un de ces trois groupes. Mais le plan brillant de Dieu est conçu pour produire une suffisance financière qui permette à chacun d'entre nous de servir Dieu au maximum. Les riches Corinthiens avaient besoin d'apprendre ce qu'était la réussite financière selon Dieu. Les Macédoniens l'avaient compris. Les autres saints qui en avaient besoin en dépendaient, y croyaient. Verset 7, c'est pourquoi, comme vous. Rappelez-vous l'auditoire, toujours les Corinthiens, abondaient en tout, en foi, en parole, en connaissance, en toute diligence et en amour. Vous pouvez ajouter cela à la liste en termes de richesse ou d'abondance. On retrouve à nouveau ce mot, abonder. D'une vie plus abondante et d'une richesse envers Dieu. Vous pouvez ajouter cela. Veillez à abonder aussi dans cette grâce. On retrouve à nouveau ce mot, grâce. De quelle grâce doivent-ils abonder? En d'autres termes, être surabondant. Il est dit ici, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Qui, bien qu'il fût riche. Et cela signifie riche, mes frères, pensez aux richesses du Christ avant qu'il ne devienne homme. Cela fait passer Salomon pour un pauvre mendiant. Christ, bien qu'il fût riche, s'est appauvri pour vous, afin que vous deveniez riche par son appauvrissement. Voilà. Il disait aux Corinthiens que Dieu avait un dessein pour eux. Et une partie de ce dessein était que Christ s'était appauvri afin que vous, Corinthiens, puissiez devenir riches, financièrement riches, avoir plus qu'il n'en fallait pour aider ceux qui n'avaient pas assez. Et au verset 10, et voici mon conseil. Maintenant, accomplissez cela, afin que, de même qu'il y avait une disposition à vouloir, il y ait aussi une réalisation à partir de ce que vous avez. Car s'il y a d'abord une volonté, et d'abord implique ensuite, cela est accepté selon ce qu'un homme a, et non selon ce qu'il n'a pas. En d'autres termes, si vous avez un excédent, il y a un but à cela. Lorsque vous dépassez le seuil de suffisance dans votre vie particulière, cet excédent a un but spécifique. Je dirais que le simple fait d'être disposé à donner de notre richesse ne suffit pas. Nous le verrons à nouveau dans un instant. Paul dit que vous ayez beaucoup ou peu, c'est le fait de donner qui est accepté, et non le fait d'être disposé à donner. Dieu accepte lorsque vous donnez. Montrez-moi votre foi, je vous montrerai mes œuvres. Dites-moi que vous êtes disposé, puis montrez-nous que vous le faites. Verset 13. Car je ne veux pas dire. Voici maintenant son objectif. Voici ce que dit Paul, mon objectif n'est pas que les autres soient soulagés et que vous soyez accablés. Ce n'est pas le but du plan financier de Dieu pour nous tous. Il ne veut pas que vous entriez dans la troisième catégorie. Il ne veut pas que vous donniez tellement que vous n'ayez plus assez. Il ne cherche pas à nous rendre la vie difficile et celle des autres facile en agissant ainsi. Mais par une égalité. Oh là là! Voilà un mot. À présent. À présent, en ce moment, Corinthiens, parce que vous vous trouvez riche ou fortuné, abondant en ressources financières. À présent, votre abondance peut subvenir à leurs besoins, afin que leur abondance puisse également subvenir à vos besoins. En d'autres termes, si cela leur arrivait et que vous vous trouviez dans la situation inverse, nous ferions la même chose. Nous demanderions aux Macédoniens la même chose que ce que nous vous demandons. Afin qu'il y ait, il recommence, afin qu'il y ait égalité. Or, qu'il y ait égalité est tout aussi puissant en grec. Cétophos. Ce mot que étophos, qui signifie de la manière dont ou intentionnellement. Il y est ginomé, ginomé. Cela signifie faire en sorte que. Et l'égalité ne signifie pas l'égalité, mes frères. Cela signifie l'équité. En d'autres termes, cela signifie provoquer intentionnellement l'équité, et non l'égalité. L'égalité est une erreur de traduction. Une définition pratique de l'égalité financière serait que tout le monde reçoive les mêmes ressources. Et l'hypothèse est que tout le monde part du même point, où il reste et atteint cet objectif. Tout le monde a exactement la même somme d'argent. Exactement. Ce n'est pas ce que Dieu dit. L'équité est très différente. Chacun dispose de ce dont il a besoin pour atteindre un résultat similaire. Chacun dispose de ce dont il a besoin pour obtenir un résultat similaire. Et l'hypothèse est que chacun part de circonstances différentes, et le résultat est juste car, quelles que soient les ressources dont chacun dispose, ils obtiennent toujours le même résultat, qui est de servir Dieu. L'équité, d'un point de vue biblique, ne signifie pas que nous devons tous avoir le même revenu, le même mode de vie, les mêmes possessions pour réussir financièrement. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais d'où l'apôtre Paul a-t-il tiré cette idée? Verset 15. Comme il est écrit, il l'a lu quelque part, celui qui avait beaucoup ramassé n'avait rien en trop, et celui qui avait peu ramassé n'était pas dans le besoin. Savez-vous d'où cela vient? Exode 16, verset 8. Il cite Exode 16, verset 8. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du sujet de ce chapitre de l'Exode. J'ai donné un sermon en juillet dernier. Il s'intitulait « Les leçons de la manne ». J'y ai présenté 5 leçons importantes que nous pouvons en tirer. Eh bien, voici la 6e leçon que vous pouvez tirer de la manne. L'équité financière aide à identifier la seule véritable Église. L'équité financière aide à identifier la seule véritable Église. Dans l'Église de Dieu, celui qui amasse beaucoup n'a rien de plus que ce dont il a besoin ou ce qui est suffisant pour sa vie. Et celui qui amasse peu ne manque pas de ce qui est suffisant pour vivre dignement en tant qu'ambassadeur du Christ et pourvoir à ses besoins. La Bible nous dit clairement que l'Église primitive distribuait selon les besoins de chacun, et non pas de manière égale à chaque individu. Réfléchissez-y. Rappelez-vous la définition pratique, chacun a ce dont il a besoin. Frères et sœurs, si nous voulons atteindre la réussite financière à la manière de Dieu, notre deuxième objectif doit être la suffisance pour servir Dieu. Il n'y a pas de membre de l'Église de Dieu qui ait les mêmes besoins, mais nous devons tous servir Dieu. Ce qui est suffisant pour qu'un membre d'une congrégation serve Dieu n'est pas la même chose pour un autre membre de la même congrégation. Ce qu'il faut pour servir Dieu pour les membres au Nigeria n'est pas la même chose que ce qu'il faut pour être suffisant en France, ou aux États-Unis par rapport au Pérou, ou au Mexique par rapport à l'Angleterre. La suffisance est toute relative. Le résultat devrait être le même. Nous devrions tous servir Dieu. Comment pouvons-nous être sûrs que nous avons la suffisance pour servir Dieu? Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Quelle est la quantité suffisante de nourriture, de boissons et de vêtements pour ma famille et moi-même? Quelles sont les conditions de vie et le véhicule idéaux pour moi? Dois-je avoir des économies, si possible? Combien d'économies? Quelle est la quantité d'économies trop faible ou trop importante pour moi? Ce sont toutes des questions importantes, mes frères. Toutes importantes. Maintenant, si vous vous attendez à des chiffres exacts, vous ne les obtiendrez pas. Je n'ai pas ces réponses. Dieu sait ce qu'elles sont. Il a un plan pour que chacun d'entre vous, y compris moi-même, nous tous, puissions avoir suffisamment pour vivre. Tout d'abord, si nous voulons avoir suffisamment pour servir Dieu, voici la première clé. Si vous voulez avoir suffisamment et que vous voulez connaître le secret pour atteindre ce deuxième objectif, qui est d'avoir suffisamment pour servir Dieu, le voici. Travaillez. Si nous voulons avoir suffisamment pour servir Dieu, nous devons travailler. Et, bien sûr, je fais référence aux membres valides de l'Église. Nous devrions écouter la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Écoutez ceci. Si vous voulez parler de langage fort, vous ne voyez pas cela très souvent. Je pense que c'est 16 fois au maximum, que vous entendrez cette phrase ou une variante de celle-ci. Nous vous ordonnons, frères, Thessaloniciens, et tous les autres, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est environ 16 fois que vous trouverez cette déclaration. Maintenant, il parle avec l'autorité au nom de Jésus-Christ. Que vous vous retiriez de tout frère qui marche de manière désordonnée. Désordonnée? Que veut-il dire par là? Et qui ne suit pas la tradition qu'il a reçue de nous. En d'autres termes, vous avez vu comment nous agissions. Nous allons lire cela dans un instant. Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, car nous ne nous sommes pas conduits de manière désordonnée parmi vous. Que signifie désordonné? Que veut-il dire par là? Désordonné, c'est un mot fort. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. En d'autres termes, nous n'étions pas des parasites parmi vous. Non pas parce que nous n'en avions pas le pouvoir, mais pour vous donner un exemple à suivre. Car même lorsque nous étions avec vous, nous vous avons donné cet ordre. C'est la deuxième fois que le mot « ordre » est utilisé ici. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Sans exception. car nous entendons dire que certains d'entre vous mènent une vie désordonnée. C'est ce dont il parlait. Quand il dit de vous séparer des personnes désordonnées, séparez-vous des individus au sein de l'Église qui sont capables de travailler mais qui ne travaillent pas. Et nous vous exhortons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà encore une fois, parlez au nom de Jésus-Christ, à travailler dans le calme et à manger votre propre pain. Cela suffit. Lorsque vous travaillez suffisamment pour manger votre propre pain, c'est un niveau de suffisance qui vous permet de servir Dieu de manière ordonnée, dans l'ordre. Ceux qui peuvent travailler doivent travailler. Et l'apôtre Paul s'incluait lui-même. Mes frères, M. Pack en est un exemple. À 77 ans, je pense que récemment ou il n'y a pas si longtemps, l'âge officiel de la retraite a été porté à 67 ans, contre 65 auparavant. Je ne connais personne qui travaille plus dur et plus longtemps que M. Pack. Et il a 10 ans, il a dépassé de 10 ans l'âge officiel de la retraite, c'est un exemple que nous devrions suivre. Et si je le suis, je vous demanderai de me suivre. Et si vous me suivez, je demanderai à ceux qui sont à votre gauche et à votre droite, et à tout le monde dans le monde entier, de se suivre les uns les autres dans cette voie. Si vous êtes capable de travailler, travaillez. Ma femme et moi, nous prions Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Combien d'entre vous prient, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? HMM. Nous ne prions pas, ne nous donne pas de pain. Et nous n'avons jamais prié pour avoir du pain pour toute notre vie. Ce n'est pas ce que cela signifie. Parce que nous sommes valides, savez-vous ce que nous demandons réellement à Dieu? Nous demandons en réalité à Dieu de nous donner du travail chaque jour. Parce que si nous ne travaillons pas, nous ne devrions pas manger. Quand je dis « donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien », je demande à Dieu, « donne-moi l'occasion de travailler et de manger mon propre pain afin que je ne sois pas un parasite ou que je ne dépende de personne d'autre. » Encore une fois, je parle des hommes et des femmes valides dans l'Église. Quand je parle des femmes également, si vous êtes mariés, elles peuvent certainement travailler si elles le souhaitent. Mais les hommes, nous avons une responsabilité plus grande. Je ne suis pas contre le fait que les femmes travaillent. Ma femme travaille ici, au siège social. C'est merveilleux de pouvoir travailler avec elle. Mais dans le passé, j'aurais préféré qu'elle reste à la maison et élève mes filles jusqu'à ce qu'elles partent à l'école, puis, si elle voulait travailler, elle travaillait parce qu'elle le voulait. Il n'y a rien de mal à cela. Le travail est une création divine, mes frères. Dieu attend des gens capables de travailler qu'ils travaillent. Cela développe le sens des responsabilités, la discipline, la dignité et l'ordre, autant de qualités qui font cruellement défaut à notre monde. Mes frères, souvent, mais pas toujours, les gens qui mènent une vie malheureuse et désordonnée le font simplement parce qu'ils ne travaillent pas assez dur. L'inverse peut également être vrai. Souvent, mais pas toujours, les personnes qui mènent une vie désordonnée travaillent trop pour acheter trop de choses, pensant que cela les rendra heureuses, comme je l'ai mentionné précédemment. Mes frères, ceux qui peuvent travailler dans l'Église de Dieu doivent travailler au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un commandement. Travaillez suffisamment pour subvenir à vos besoins. Et cela ne concerne pas seulement la nourriture. Paul a dit à Timothée, « Mais si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle, pire qu'un incroyant. » Pensez à l'état dans lequel vous étiez avant d'être appelé par Dieu dans l'Église, dans la vérité. Plutôt mauvais, si vous y réfléchissez bien, n'est-ce pas? Je ne veux pas que vous y pensiez ou que vous vous attardiez trop dessus. Mais quiconque est capable de travailler dans l'Église et ne le fait pas, ne pourvoit pas aux besoins des siens, encore une fois, fait peser la majeure partie de ce poids sur vous et sur votre famille, c'est pire qu'avant que vous ne deveniez croyant. Je vais vous confier un secret. Plus ma femme et moi avions de filles, plus nous devions travailler dur. Certains diront peut-être, oh, votre femme ne subvenait pas aux besoins de. Oh, si, elle le faisait. Elle subvenait aux besoins du foyer. Je gagnais l'argent. C'est elle qui allait acheter le pain. C'est elle qui faisait durer l'argent dans notre maison. Heureusement que je n'étais pas responsable de cet aspect de la vie du foyer. Elle était experte en la matière. Je lui faisais confiance pour cela. Nous travaillions en équipe pour subvenir aux besoins de notre foyer afin que notre situation ne soit pas pire qu'avant notre arrivée à l'église. Messieurs, assez signifie trouver des moyens de subvenir financièrement à vos besoins, à ceux de votre femme et de vos enfants. Alors, qu'est-ce qui est suffisant d'autre? Laissez-moi vous expliquer. Numéro 2. Être suffisamment riche pour servir Dieu signifie que nous pouvons payer la dîme, faire des offrandes et économiser. Les trois. Oui, les trois. Moïse a dit à Israël dans Lévitique 27 que chaque dîme, suggérant qu'il y en a plusieurs, chaque dîme appartient au Seigneur. Et il a ajouté qu'elles sont saintes pour le Seigneur. Toutes les dîmes, les différentes dîmes, sont saintes pour Dieu. Moïse leur a ordonné dans Deutéronome 16 de se présenter devant le Seigneur à elle, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, 7 fois par an, 3 fois en général, mais 7 fois spécifiquement les jours de fête, et pas les mains vides. Et troisièmement, Salomon a dit dans Proverbe 21, écoutez très attentivement, il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé le dépense tout. En d'autres termes, il n'accumule aucune épargne. Ils mangent tout, boivent tout, dépensent tout. Ce sont les trois éléments importants pour servir Dieu de manière suffisante. Et Dieu dit dans Malachie chapitre 3, verset 8, apportez toutes vos dîmes, première, deuxième et troisième, à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mes frères, si nous nous efforçons d'être suffisants, d'avoir assez, assez pour le servir, nous devons obéir à ses commandements et donner la dîme. La première, la deuxième et la troisième, toutes les trois appartiennent à Dieu. Le premier dixième de nos revenus bruts que nous donnons à Dieu lui permet d'accomplir son œuvre. Le deuxième dixième est mis de côté pour que nous puissions assister à sa fête, nous réjouir et apprendre à le craindre. N'oubliez pas d'être riches envers Dieu. C'est un investissement pour devenir riches envers Dieu. Tout ce qui reste de ce dixième, que ce soit avant que nous puissions l'anticiper ou après que nous l'ayons dépensé et que nous soyons rentrés chez nous, nous le rendons à Dieu. Cette dîme lui appartient. Elle est sacrée. L'excédent de la dîme, nous l'appelons la deuxième dîme. Et le troisième dixième, Deutéronome 26, qui n'est que tous les 3 ans, est la façon dont Dieu prend soin des personnes âgées, des veuves, de ceux qui ont perdu leur travail temporairement ou qui sont incapables de travailler, et de certains qui sont définitivement incapables de travailler. C'est ainsi que Dieu prend soin de ce groupe de personnes tous les 3 ans. J'ai souvent parlé à mes filles de finances personnelles et de gestion budgétaire lorsqu'elles étaient jeunes afin de leur donner des bases solides. C'est mon domaine d'expertise, si vous voulez. Je ne suis pas parfait dans ce domaine, mais j'ai certainement beaucoup d'expérience. Et malgré toute l'expérience que j'avais en matière de gestion budgétaire, de finances, de trésorerie, de tous ces éléments, je ne leur avais jamais donné ce conseil. La première fois que ma femme et moi avons dû donner les 3 dîmes, nous n'avons eu d'autre choix que d'ajuster notre mode de vie pour passer l'année. Nous vivions au jour le jour. Je ne pouvais pas gagner plus d'argent. Nous ne pouvions pas gagner plus d'argent. Nous ne pouvions pas augmenter nos revenus, alors nous avons réduit nos dépenses pour recevoir ces bénédictions promises, et les bénédictions sont venues dans notre vie. Mais savez-vous quelle est l'une des plus grandes bénédictions que j'ai apprises au cours de la 3e année de dîmes? J'en ai des frissons rien que d'y penser. Dieu nous a appris qu'il était possible de subvenir aux besoins d'une famille, 4 filles et une femme, à ce niveau, chaque année. La semaine dernière, je discutais avec un homme en Afrique. Il ne savait pas de quoi j'allais parler. Nous parlions de la vie, et savez-vous ce qu'il a découvert il y a des années et qu'il continue de faire aujourd'hui? Je ne l'ai pas incité à le dire. Il m'a dit qu'il vivait chaque année en Afrique comme s'il était dans une 3e année de dîmes. Et que fait-il les autres années, les 2e et 3e années, avant d'entrer à nouveau dans une 3e année de dîmes? Il fait des offrandes plus importantes. Cette année-là, c'est l'année où il fait plus d'offrandes. Pas seulement la 3e dîme qu'il doit, mais des offrandes plus importantes, les 7 fois par an où il est tenu de le faire. Brillant. Je vais transmettre cela. Voici le conseil que j'ai donné et souvent répété à mes filles. À toutes les quatre, même à celles qui ne sont pas là. Je veux dire, c'est un conseil financier judicieux. C'est la réussite financière à la manière de Dieu. Essayez de vivre chaque année. Tout le monde ne peut pas le faire, mais voici une suggestion. Essayez de vivre comme si vous étiez dans une 3e année de dîmes. N'oubliez pas qu'il y a un trésor à désirer et de l'huile dans la demeure des sages. Il y a des économies. Il y a une somme raisonnable d'économies. Les 2 années entre vos années de 3e dîme vous permettent de faire des offrandes plus importantes et de mettre de côté suffisamment d'économies pour les urgences imprévues. Payez vos factures si vous perdez temporairement votre emploi. Peut-être que quelques mois suffiront pour trouver un autre emploi. Peut-être qu'en vieillissant, vous aurez besoin de 3 mois de salaire et d'économie. Utilisez la 3e année de dîmes pour essayer de le faire. Couvrez les franchises d'assurance si vous avez une assurance. Plus la franchise est élevée, moins vos primes mensuelles sont élevées. Elles fonctionnent ensemble. Si j'ai suffisamment d'économies pour couvrir ces frais et que je n'y touche pas, tout comme je ne touche pas à ma 3e dîme chaque année, si je n'y touche pas et que je les garde en réserve, je peux réduire mes primes d'assurance automobile. Mes frères, pendant les années de la 3e dîme, je veux que vous réfléchissiez à cela. Cela ne doit pas être des années angoissantes. Les bénédictions de la 3e dîme viennent de l'obéissance, pas de l'angoisse. Dieu veut faire des miracles. Il veut vous bénir. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes nerveux à propos de ceci ou de cela pendant votre année de 3e dîme. Il veut que vous le fassiez avec confiance et en lui faisant confiance. Cela peut également créer un certain niveau de discipline, une discipline financière. Peut-être avez-vous versé un acompte sur votre voiture afin de réduire vos mensualités, et vous disposez de cette somme. Reconstituez-la. Mes frères, avec une épargne raisonnable, nous n'aurons probablement pas besoin de l'aide de l'Église ou d'ailleurs. C'est donc sage. Assurez-vous de payer vos impôts. Christ a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu. La suffisance signifie que nous sommes en mesure de payer nos impôts, et nous devons les payer. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu et tromper César en même temps. Cela ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Mes frères, tout ce dont j'ai parlé, travailler pour subvenir à nos besoins, payer la dîme, faire des offrandes, constituer une épargne, prévoir une somme raisonnable pour couvrir les urgences, payer nos impôts, tout cela relève de l'obéissance. Nous nous soumettons à Dieu et à César dans cet ordre. L'intégrité en tant que chrétien n'est pas sélective. Encore une fois, nous devons servir Dieu et rendre hommage à César, les impôts ou les taxes gouvernementales. En voici une autre. Il y a une chose pire que l'argent. Nous savons que l'argent est la source de tous les maux. Eh bien, cette autre chose, c'est l'argent faux, l'amour des cartes de crédit. Pas les cartes de crédit, l'amour des cartes de crédit. Nous devons tous vivre selon nos moyens, et tout cela est relatif. Mes moyens lorsque j'avais une femme et quatre filles sont différents des vôtres. Peut-être n'avez-vous pas d'enfants. Peut-être êtes-vous célibataire. Tout est relatif. Vivez selon vos moyens. Nous augmentons le risque de tomber dans les pièges du diable et des alliances lorsque nous dépensons au-delà de nos moyens, et les cartes de crédit, mes frères, sont dangereuses à cet égard. J'utilise souvent les cartes de crédit. J'ai des cartes de crédit qui me remboursent chaque fois que je paye une facture, que je fais mes courses ou que je fais le plein d'essence. Je veux récupérer cet argent. Je prends l'argent de Mammon. Pas de problème. J'ai donc deux règles en matière de cartes de crédit, car l'amour des cartes de crédit est presque un mal pire, car ce n'est pas de l'argent réel. À ce stade, nous vivons au-dessus de nos moyens. Dépensez avec vos cartes de crédit en sachant que vous pouvez les rembourser chaque mois pour éviter les intérêts. Et dans les rares cas où je ne les rembourse pas entièrement, en ce qui me concerne, mon solde ne dépasse pas ma capacité à le rembourser entièrement le mois suivant. Je ne dépasse généralement pas 10% de ma limite si mon solde dépasse un mois. Ce sont simplement des règles que je me suis fixées. Cela permet de maintenir votre code de crédit à un niveau élevé. C'est un avantage. Qu'en est-il des prêts hypothécaires ou automobiles, et des baux d'appartement? Est-ce acceptable? Bien sûr que oui. Eh bien, il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Lorsque je paye mon hypothèque, mon loyer ou ma mensualité de voiture au cours du mois, je ne leur dois rien. Je les aime. Ils m'aiment. Le mois suivant, je leur dois à nouveau de l'argent, je les paye à nouveau. Il n'y a donc rien de mal à avoir un prêt immobilier, un bail d'appartement ou un prêt automobile, car nous avons tous besoin d'une voiture. Bon. Terminons ici. C'est cela, vivre avec suffisance. Suffisamment pour servir Dieu sans. Je ne peux pas terminer sans parler de l'excès. Ce sera rapide. Ecclésiaste 5, verset 13. Il y a un mal grave que j'ai vu sous le soleil, à savoir des richesses conservées pour le malheur de leurs propriétaires. Il y a un mal grave que j'ai vu sous le soleil, à savoir des richesses conservées pour le malheur de leurs propriétaires. C'est l'excès, mes frères. Lorsque vous dépassez tout ce que je viens de décrire, gagnez suffisamment d'argent pour payer toutes vos dîmes, payer vos impôts, générer des économies pour les urgences, lorsque vous allez au-delà de cela et que vous commencez à accumuler, il est dit ici, j'ai vu un grand mal sous le soleil. Des richesses conservées pour leurs propriétaires, conservées pour eux-mêmes, à leur détriment. Mes frères, pensez aux Laodicéens. Il n'y a rien de mal à avoir un logement convenable ou agréable, mais nous n'avons pas besoin d'appartements terrasses ni de manoirs, et encore moins de deux maisons. Ma femme et moi avions deux voitures lorsque nous sommes entrés dans l'église. Nous travaillions dans des quartiers différents de Cleveland. Lorsque nous sommes venus travailler au siège, nous avons réduit notre nombre de voitures à une seule. Nous nous débrouillons très bien avec un seul véhicule. Il est sage d'avoir suffisamment d'économies pour faire face à des circonstances imprévues, mais avoir des économies de plusieurs dizaines ou centaines de milliers pour la retraite n'est tout simplement pas nécessaire pour toutes les raisons que j'ai exposées aujourd'hui. En cas de doute, demandez à votre ministre. Salomon a été inspiré pour nous rapporter comment Dieu considère les richesses financières et matérielles. J'ai volontairement évité les versets que nous connaissons tous. Vendez tout ce que vous possédez. Ils mettaient tout en commun. Acte 2, verset 45. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Dans quel but? Le même que celui que Paul a expliqué aux Corinthiens, créer l'équité afin que ceux qui ont plus que nécessaire puissent aider ceux qui n'ont pas, et accomplir l'œuvre. Dans les services aux membres, sous la bibliothèque, vous trouverez au sixième rang des articles utiles. Vous pouvez aller sous la rubrique « Finances ». Il y a des articles courants, « Payer une partie du prix du Christ », « Ceux qui ont tout abandonné », d'autres questions sur la dîme, toutes choses précieuses pour ceux d'entre vous qui entrent dans la catégorie des Corinthiens qui ont plus que nécessaire, comme je l'ai expliqué aujourd'hui. Le nécessaire pour servir Dieu. Mes frères, la réussite financière pour un chrétien fidèle n'est pas une richesse surabondante ou un excès de possession matérielle. Vous pouvez inclure la possession d'une voiture, mais peut-être pas deux. Nous avons tous besoin d'un toit au-dessus de notre tête. Nous n'avons pas besoin de deux voitures, sauf s'il y a une raison impérieuse. Si c'est le cas, consultez votre pasteur si vous avez des doutes. La modération fait autant partie de la richesse envers Dieu que le travail, la dîme, les offrandes, l'épargne et le fait de vivre selon ses moyens. C'est aussi une façon de servir Dieu et cela compte également comme un trésor pour lui en vue de l'avenir. Mes frères, le monde définit le succès comme le fait d'avoir plus d'argent et plus de possessions. Dieu définit le succès financier comme le fait de vivre avec moins des deux et de lui faire davantage confiance. Ainsi, si nous sommes riches envers Dieu et que nous vivons avec suffisamment pour le servir, en d'autres termes, sans manque ni excès, nous ne sommes pas en échec, nous sommes en réussite. C'est cela, le succès financier selon Dieu.